À la veille de la Première Guerre mondiale, Benoît XV s'inquiète des guerres fratricides qui vont déchirer l'Europe. En 2005, le cardinal Ratzinger, élu pape, prend le nom de Benoît XVI en référence notamment au saint patron de l'Europe. L'attention à la paix du continent, à son unité, mais aussi à son identité, sont des sujets de continuité des pontificats de la seconde moitié du XXe siècle. Le 25 mars 1957, jour de la signature du traité de Rome, l'édition italienne de Radio Vatican indique que l'espérance est vive, le désir profond que cette date signe dans l'histoire de l'Europe et du monde, l'ouverture de nouvelles perspectives, le début de jours meilleurs. La rédaction salue aussi le choix de Rome pour la signature de la fondation de l'Europe. Rome, disent-ils, est la patrie des valeurs humaines et chrétiennes communes aux peuples européens. 4 jours plus tard, le 29 mars 1957, en recevant un groupe de jeunes issus de l'Union démocrate chrétienne de Berlin-Ouest, le pape Pie XII déclare que le projet de l'Europe unie est une grande réalisation. « Nous avons toujours exprimé combien nous soutenions tout progrès en cette direction », ajoute-t-il, tout en rappelant que les valeurs religieuses devront conduire l'intégrité morale des pays européens. Retour dans cette édition des Clés de Saint-Pierre sur la manière dont les papes de Pie XII à Benoît XVI ont accompagné l'Europe, un parcours que nous effectuons avec Christine de Monclos, ancienne chercheuse au CERI, spécialiste de la diplomatie vaticane. Elle revient sur le regard de Pie XII envers l'entreprise européenne. Faire la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, faire la paix alors que le monde est coupé en deux blocs. Christine de Monclos.
L'Europe et la nécessité de construire l'Europe est très très présente à ce moment-là comme un moyen de réagir à cette menace communiste qui pèse sur l'Europe. Les priorités européennes telles que les voies de Saint-Siège ont changé avec chaque pontificat. Mais sous le pontificat de Pie XII, la construction de l'Europe est incontestablement un moyen de protéger le monde libre et le monde chrétien. Si le Saint-Siège a toujours souhaité la construction européenne, il n'en a jamais pris directement l'initiative. Les initiatives ont été politiques. La première d'entre elles, d'ailleurs, vient de Winston Churchill, qui a réuni les mouvements européens à La Haye en mai 48, ce qui a été d'ailleurs à l'origine de la création du Conseil de l'Europe. Et cette initiative a été saluée avec enthousiasme par Rome. Et de fait, les premiers bâtisseurs de l'Europe, qui se soient appelés Robert Schuman, Alcide de Gasperi ou Konrad Adenauer étaient tous des catholiques pratiquants. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pu parler à cette époque d'Europe vaticane.
Ensuite vont venir Jean XXIII, Paul VI. L'Europe est déjà faite, le Concile Vatican II se déroule. En quoi les valeurs modernistes, humanistes, reflétées par le Concile vont-elles nourrir le projet européen ?
L'Europe s'est reconstruite, c'est infiniment plus solide et dans une période dynamique. Et au fond, le seul texte un peu important de ce pontificat sur le problème précis de l'Europe, c'est une lettre à Alain Barrère au moment des semaines sociales qui a un ton très différent. À ce moment-là, l'Europe devient non plus tellement une entreprise défensive contre l'athéisme, le soviétisme, etc., qu'un moyen de mettre en apprentissage des solidarités nouvelles. Alors, il y a quelque chose qui devient quand même très important et qui a une dimension européenne, c'est l'encyclique Pacem in Terris, qui aura un impact considérable en Europe de l'Est et qui amorcera un dialogue, qui sera quand même au fond très, très bien reçu par les soviétiques. Cette encyclique date de 63, tout à fait à la fin du pontificat de Jean XXIII, et ça va être l'amorce de ce qui va être toute l'attitude du pontificat de Paul VI à l'égard des problèmes européens, c'est-à-dire l'os politique et l'ouverture à l'Est. L'insistance mise sur la liberté religieuse, notamment, et sur le respect des droits de l'homme, aura beaucoup d'incidence. Et ça, alors là, on touche non seulement à l'os politique, mais à quelque chose qui lui est presque contemporain, qui est la conférence Helsinki. Les pays de l'Est ont effectué une démarche en 1969 auprès du Saint-Siège en leur demandant d'encourager la tenue d'une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe avec tous les pays européens, et les pays occidentaux n'étaient pas très favorables, a priori, à l'organisation de cette conférence. Et le Saint-Siège a favorisé la conférence, pensant que ça pouvait être très utile, effectivement, pour contribuer à libérer cette Europe qui vivait sous la dictature. C'est un défi qui a été lancé et qui a quand même réussi. On a pensé, quand l'acte final de la conférence de Helsinki garantissait l'intégrité territoriale de chaque État, ce qui pouvait être considéré comme un avantage pour l'Union soviétique. En réalité, le fait, dans cette même acte final, d'avoir demandé aux États signataires de prendre l'engagement de respecter les droits fondamentaux, ça a été une espèce d'explosif en puissance à l'origine de tous les premiers mouvements de dissidents d'Europe de l'Est, qui auront les conséquences que l'on sait en 88-89.
Donc l'unification de l'Europe, ce qu'on a appelé aussi l'élargissement, a été suivi au cours des différents pontificats par rapport à la question des droits de l'homme, par rapport aussi à la réaction dictature.
Je crois que le pontificat de Jean-Paul II, effectivement, est un pontificat clé pour la réunification de l'Europe. D'abord parce qu'il arrivait de Pologne et qu'il savait ce que c'était qu'une Europe soviétisée. Et qu'il a fait un certain nombre d'interventions spectaculaires dès 1979. Enfin, cette Europe qui ne peut cesser de chercher son unité et qui doit à cet égard se tourner vers le christianisme. Cette Europe dont il dit à la présidence du Parlement européen en 1979 que c'est une partie de l'Europe qu'elle représente. Tout le pontificat de Jean-Paul II est jalonné d'interventions de ce genre qui sonnent comme une espèce de leitmotiv et d'obsession de la division de l'Europe. Et effectivement, ce qui est aussi sous-jacent à ce discours, c'est le fait que c'est le christianisme, ses valeurs, son respect de la dignité de chaque homme, etc., qui permettra à l'Europe de retrouver à la fois son identité et son unité. Je crois que c'est vraiment un des aspects clés du pontificat de Jean-Paul II. Et on ne peut pas ne pas penser à l'atmosphère extraordinaire de joie qui a entouré la chute du mur en 89, enfin, et dont on pouvait se dire que le pape polonais n'y était pas étranger.
Et c'est justement Jean-Paul II que nous écoutons un instant. Il s'exprimait après la chute du mur de Berlin.
Le monde vient de vivre une année particulièrement fertile en événements singuliers. L'Europe entière a senti passer le vent régénérateur de la liberté, une liberté conquise au prix de durs sacrifices par des peuples qui mesurent aujourd'hui à quel point l'idéal incarné par l'état de droit est exigeant. L'ère de la confrontation et de la division en Europe est révolue.
Benoît XVI, comme Jean-Paul II auparavant, insiste sur les racines chrétiennes de l'Europe. Quelles sont les priorités de ce pontificat vis-à-vis de l'Europe?
Je crois que le pape Benoît XVI, qui certainement attache une très grande importance à l'Europe, qu'il est plus théologien que politique, et que, au fond, sa préoccupation, j'allais dire première, est probablement davantage la déchristianisation de l'Europe, le relativisme moral, la sécularisation. Je pense que le problème de l'Europe pour le pontificat d'aujourd'hui est beaucoup plus un problème de reconstruction morale que d'institutionnalisation politique. La mondialisation, le rapport avec de nouvelles cultures, et notamment avec l'islam, etc., pose des problèmes qui ne s'étaient pas posés dans l'Europe d'après la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, dans un tel contexte, l'attitude du Saint-Siège est forcément de rapporter les préoccupations au niveau éthique, considérant que c'est l'éthique qui doit guider le politique, mais que, de toute façon, les politiques gardent une autonomie de décision pour ce qui est de leur domaine et effectivement de l'organisation des pouvoirs, de l'institutionnalisation, une autonomie qui est très grande.